Bonjour, l'actualité africaine est particulièrement riche ces derniers temps.
Oui, on a une série d'articles là d'Africa Press qui touchent un peu à tout.
C'est ça. Environnement, économie, ressources naturelles, même de la science, agriculture.
Exactement. Du coup, on va essayer d'explorer un peu les points clés, les faits marquants de tout ça.
Parfait. Alors, commençons peut-être par l'environnement.
On voit des approches assez différentes, non?
Tout à fait. Il y a d'abord cette initiative mondiale portée par le Congo-Brazzaville.
Oui.
Et qui était adoptée par l'ONU, une décennie mondiale de boisement 2027-2036.
L'objectif, c'est quoi?
Augmenter la couverture forestière mondiale de 4%.
C'est ça. L'idée, c'est de lutter contre le changement climatique et cette perte énorme de forêts chaque année. 10 millions d'hectares.
Et il parle même de créer des forêts artificielles?
Oui, y compris dans des zones comme les savanes. Et c'est là que ça coince un peu pour certains.
Ah oui? Pourquoi?
La société civile s'inquiète un peu. L'idée, c'est de ne pas sacrifier d'autres écosystèmes, comme les savanes justement, qui sont vitales aussi.
D'accord, une question de méthode donc.
Voilà. Et puis à côté de ça, on a une approche plus nationale en Côte d'Ivoire.
Là, c'est un accord entre le gouvernement et le patronat, la CGECI, c'est ça?
Exactement. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'objectif, c'est de dépasser les moins 30,41% d'ici 2030.
Et d'accélérer la transition écologique.
C'est aussi un enjeu économique majeur, hein. Le ministre ivoirien de l'Environnement a prévenu.
J'ai vu ça, oui. Un risque de recul du PIB de 13% si rien n'est fait.
Donc l'accord vise à améliorer la gouvernance, l'accès au financement vert.
Et surtout, embarquer les PME, qui sont la très grande majorité des entreprises.
98%, oui. C'est crucial de les inclure.
Ces liens entre économie et environnement, on les retrouve aussi avec cette nouvelle loi de l'UE sur la déforestation, non?
Ah oui, ça pourrait avoir un impact très lourd sur l'Afrique subsaharienne.
On parle de chiffres assez énormes.
Oui, des pertes estimées à 11 000 milliards de dollars par an sur les exportations de cacao, café, huile de palme.
Waouh! Et pourquoi cette loi, au juste?
L'UE estime que sa consommation est liée à environ 10% de la déforestation mondiale, d'après la FAO.
D'accord. Et l'Afrique, elle, perdrait combien?
Près de 3,9 millions d'hectares par an. Donc, il y a un lien.
Le défi, c'est la traçabilité, j'imagine. Surtout pour les petits producteurs.
Exactement. Les coûts pour prouver que le produit n'a pas contribué à la déforestation, ça peut être énorme. Surtout pour le cacao, où 59% des exports vont vers l'UE.
Et quelles seraient les pistes pour s'adapter?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, mettre en place des systèmes de traçabilité efficaces. Le Ghana, le Nigeria, ils s'y mettent déjà.
Un soutien de l'UE serait possible?
Oui, technique et financier, c'est envisagé. Et puis, développer la transformation locale, créer plus de valeur sur place.
Et renforcer le commerce intra-africain aussi, peut-être?
Absolument, pour moins dépendre d'un seul marché.
Toute cette pression sur les exports, ça souligne vraiment l'importance de bien gérer ses propres ressources.
Tout à fait, et ça nous amène à l'Algérie.
Oui, qui propose de partager son expertise dans le pétrole et le gaz. Ils ont plus de 60 ans d'expérience.
Via l'APO, l'Organisation des producteurs de pétrole africain, Sonatrach, leur entreprise nationale, est mise en avant.
Avec des innovations, des brevets.
Une trentaine, oui. Et ils président le forum Eldil de l'APO. L'objectif, c'est d'aider les autres pays africains.
À surmonter les défis de financement, de technologie.
Pour développer des solutions locales et utiliser les hydrocarbures comme levier de croissance, mais durable, quoi.
Et dans un autre secteur, les mines, on voit aussi une tendance au contrôle local, non?
Au Burkina Faso, oui, c'est intéressant. Une société mauricienne, SRI, a racheté les actifs miniers canadiens de la mine d'or Yaramoko.
Pour environ 130 millions de dollars. Mais le bénéficiaire final est burkinabé?
C'est ça. Ça montre une volonté de renforcer le contrôle national sur un secteur clé comme l'or.
SRI s'engage d'ailleurs à soutenir la politique nationale, le développement durable.
C'est ce qui est dit, oui. Une tendance à suivre.
Allez, on change complètement de registre. Un saut dans le temps. Très loin en arrière.
Oui, direction l'Afrique du Sud, avec une découverte scientifique assez exceptionnelle.
Un fossile.
Surnommé SU.
Oui, Kerbos Susanae, 444 millions d'années.
Il date du Dévonien.
Presque un demi-milliard d'années.
Ouais.
Incroyable. Et qu'est-ce qu'il a de spécial?
Sa conservation est unique. Il a été trouvé dans des schistes et les tissus mous.
Les tissus mous?
Oui, les muscles, les intestins. Ils ont été minéralisés, préservés grâce au sulfure d'hydrogène de l'époque.
C'est fou. Mais alors, si les tissus mous sont là?
Eh ben, c'est là le paradoxe. Les parties dures, la tête, les pattes, elles manquent.
Attendez. Les parties molles sont conservées, mais pas les dures. C'est l'inverse d'habitude.
Exactement. C'est très contre-intuitif. Ça ouvre une fenêtre incroyable sur la vie à cette époque.
Mais ça doit être un casse-tête pour savoir ce que c'était, non? Pour le classer?
Précisément. C'est très complexe pour comprendre sa place dans l'évolution. Un vrai défi pour les paléontologues.
Fascinant. Bon, pour revenir à des choses plus terre-à-terre, peut-être. L'agriculture au Bénin.
Oui, une nouvelle importante. Le pays a atteint l'autosuffisance alimentaire en 2024.
Ah, c'est une excellente nouvelle.
Oui, c'est un résultat notable. Mais il faut nuancer un peu.
C'est-à-dire ?
Les chiffres montrent une belle hausse pour le maïs, le riz, le soja.
Plus 14% pour le maïs, plus 5,5% riz, plus 16% soja.
Voilà. Mais en même temps, on a des baisses pour le manioc, moins 13%, ou la tomate, moins 23%. C'est mitigé.
Qu'est-ce qui explique les succès ? Le soutien d'État ?
Oui, ça a joué un rôle important. Les entrants, le financement, les conseils techniques.
Mais les défis restent présents, j'imagine.
Absolument. Le changement climatique, le besoin de diversifier encore plus, les infrastructures rurales et toujours la question du financement des agriculteurs.
Donc une étape franchie, mais la route est encore longue.
C'est ça. Une résilience qui se construit mais qui reste fragile.
Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, on voit un continent africain qui est vraiment au cœur des grands enjeux mondiaux, notamment environnementaux.
Oui, avec des réponses qui se cherchent, à la fois locales, comme en Côte d'Ivoire, et globales, comme l'initiative congolaise, tout en subissant des pressions externes, comme la loi européenne.
On voit aussi cette volonté de mieux maîtriser, de mieux gérer les ressources naturelles, que ce soit l'énergie ou les mines.
Avec plus de coopération sud-sud, comme le propose l'Algérie, et un contrôle local qui s'affirme, comme au Burkina.
Et puis, il y a la science qui nous sort des trésors incroyables du passé lointain.
Qui nous rappelle d'où l'on vient, d'une certaine manière.
Et enfin, cette quête permanente de sécurité alimentaire. Avec des succès, des défis, comme on l'a vu au Bénin.
Tout ça pose une question de fond, finalement. Comment ces nations africaines peuvent-elles trouver le juste équilibre ?
L'équilibre entre le développement économique, qui est indispensable, et la préservation de l'environnement, qui est vital.
Exactement. Comment capitaliser sur la coopération régionale, sur l'innovation, mais aussi sur les leçons de leur propre histoire.
Qu'elle soit récente ou vieille de 444 millions d'années, comme nous le rappelle ce fossile un peu étrange.
Voilà. C'est sans doute là une des clés pour l'avenir.